pour ceux qui ne me connaissent peut-être pas, j'ai été ordonné moi-même à Icon en 1984. J'étais pendant quelques années, 11 ans, en particulier missionnaire aux Antilles, à la Martinique d'ailleurs, le sujet traitera un petit peu de ça. Et vous me donnez la possibilité bien de m'occuper aussi un petit peu, puisque je fais une année sabbatique à Icon, supérieur. Ayant eu pitié de moi, eh bien, m'ont accordé une année de repos, mais dont vous vous en doutez que je ne passe pas mon temps à tourner les pouces. C'est bien volontiers, eh bien, que je rende service à droite et à gauche, et je suis très content aujourd'hui de m'adresser, bien sûr, aux messieurs. Ce sera, je l'espère, demain pour les dames et demoiselles, eh bien, et surtout traiter un sujet, à mon avis, qui, tout naturellement, vous en doutez, va en accord avec le carême. Nous venons donc tous de commencer depuis quelques jours déjà le carême. Et il faut donc penser, premièrement, eh bien, à se ressaisir spirituellement. Le carême est avant tout pour cela. C'est une période, c'est vrai, où l'Église, et surtout en particulier vos pasteurs, vont pas vous lâcher. Ils vont revenir avec insistance sur des vérités qui sont parfois un peu dur à écouter, sous des appels à la conversion, sous des appels à la mortification, à penser aux vérités éternelles. Certains diront, mais nous y pensons toute l'année. On pense, bien sûr, qu'on est de bons, qu'on est des vrais bons. Et cependant, il nous reste encore, voyez-vous, à chacun de nous, à faire ce travail de perfectionnement. Parce que ce que notre Seigneur veut de chacun de nous, justement, c'est ça. C'est la sanctification. Et donc, je crois de plus logique de choisir un sujet. Rassurez-vous, je ne veux pas vous faire des grands discours théologiques aujourd'hui. Et de choisir donc un sujet qui est à la fois lié à deux vérités, à mon avis, très importantes, qu'il faut rappeler pendant le carême. La première, eh bien, qui consiste, je pourrais l'intituler comme ceci, eh bien, il faut craindre la justice divine. Et la meilleure façon, justement, de la craindre, c'est de l'apaiser. Nous allons voir comment. Et ensuite, il faut nous tenir prêts à mourir. La mort, notre Seigneur nous l'a bien dit, viendra comme un voleur au milieu de la nuit. Mais pas seulement à mourir, à bien mourir. Et d'ailleurs, la meilleure façon, à mon avis, ce que je pensais, la façon la plus peut-être plus agréable, plus concrète de vous faire méditer ces deux vérités, la justice divine, et la réalité de la mort, eh bien, c'est de vous raconter une histoire. Une histoire, mais une histoire dramatique. C'est la destruction, c'est l'anéantissement d'une ville en 1902, dans un pays que j'ai très bien connu, puisque j'ai passé 11 ans de ma vie comme prêtre, la ville de Saint-Pierre de la Martinique. Et elle a été détruite donc en 1902, tragiquement, par l'éruption d'un volcan. Eh bien, c'est un événement, bien sûr, que des vulcanologues les étudient. Vous les trouverez probablement dans les livres des géographies ou scientifiques, où on vous traite, on vous parle évidemment scientifiquement de l'éruption de la montagne Pelée. C'est comme ça qu'il s'appelle ce volcan. Mais ce que personne, ou très rare, y compris à l'époque, pas tous les prêtres avaient fait allusion, ne vous raconte pas, malheureusement, ce côté dramatique. Ce côté de punition divine qui avait entouré la destruction de cette ville. Elle est d'autant plus dramatique que vous en doutez aussi que dans cette ville, avec 30 000 morts, il y a aussi des bons, des gens de bien qui sont morts. Nous allons donc essayer d'étudier, de voir un petit peu, je vais essayer de vous raconter cette histoire. Voyez-vous qui, comme vous vous en doutez, vous voyez déjà, n'est-ce pas, traite ce deux sujets, nous fait penser à la justice divine, que parfois même dans cette vie, Dieu punit aussi le mal, pas seulement les méchants, mais parfois aussi les bons, parce que comme disait saint Augustin, je vous inciterai aussi à la fin quelques passages de saint Augustin que je trouve particulièrement à point sur cette histoire, eh bien, parce que Dieu punit aussi parfois les bons quand ils ne sont pas assez bons. Voilà un bon sujet de méditation pour chacun de nous. Et la cause, eh bien, la cause de cette destruction de cette ville, 30 000 personnes qui sont mortes subitement, un bon jeudi de l'Ascension, eh bien, c'est tout très probablement, en tout cas pour moi, plus j'étudie cette histoire, pas seulement du point de vue de ce que nous racontent les historiens, mais aussi par rapport, vous verrez même, par rapport aux circonstances pour le moins des coïncidences que les événements, bien sûr, y compris vulcanologiques, vont nous confirmer dans cette histoire. Dieu a voulu punir cette ville, un peu comme à la façon, pour nous ça nous paraît très lointain, de Sodome et Gomorre, n'est-ce pas, vous souvenez-vous, dans les livres de la Genèse, qui nous est raconté où Dieu n'a pas trouvé dix justes. Dieu, je ne sais pas combien demandait de justes pour ne pas détruire cette ville, on ne sait pas trop, mais en tout cas le fait c'est que, pour moi c'est une conviction, le bon Dieu l'a détruit pour nous montrer sa justice. D'autres villes aussi dans l'Ancien Testament, comme Ninive, qui était sous lesquelles bien sûr pendait la justice divine, l'épée de la justice divine ont été par contre épargnées. Donc qu'est-ce qui a manqué à Saint-Pierre? Pourquoi Saint-Pierre, irrémédiablement, presque inexorablement, cette belle ville de Saint-Pierre dans les tropiques, eh bien, avait été détruite? Bien, j'aimerais d'abord vous citer un petit peu ce que une personne que vous connaissez bien, Monseigneur Williamson, qui a eu l'occasion de visiter par deux fois la Martinique, eh bien, m'a dit, après qu'il avait visité lui-même les ruines aujourd'hui de la ville, puisque la ville a été un peu reconstruite, mais pas bien sûr avec la gloire d'un temps. Il m'a dit, écoutez, il y a deux choses, deux endroits qui m'ont profondément frappé dans ma vie. Eh bien, ce sont d'abord le cimetière de Verdun. Vous connaissez tous, n'est-ce pas, Verdun, cette immense boucherie à la Première Guerre mondiale, où à perte de vue, on voit des croix. Ces croix viennent des gens qui sont morts dans cette guerre effroyable. Et Saint-Pierre de la Martinique. Lorsqu'il est revenu pour la deuxième fois, déjà en partant la première fois, il avait un peu parlé à droite et à gauche, combien il avait été impressionné de cela. Lorsque je l'avais essayé à l'époque, et aussi un de nos fidèles là-bas, à la Martinique, qui était même historien, une dame, eh bien, qui a eu l'occasion de nous éclairer, de nous donner des détails sur cela. La Martinique, c'était un tout petit pays. Voyez-vous, elle fait à peine environ 1000 mètres carrés, donc c'est tout petit, 70 km de long. Et se trouve donc dans la chaîne des Antilles. Vous savez, les Antilles, c'est cette série d'îles sous lesquelles, souvenez-vous aussi, va échouer premièrement donc Christophe Colomb en découvrant donc le continent américain. C'est une toute petite île française depuis 1635. Le climat est chaud, comme c'est un peu, on n'est pas très loin bien sûr de l'équateur, et très humide. Aujourd'hui, c'est une île assez surpeuplée, on peut bien le dire, puisque pour une île de 1000 km², elle a 400 000 habitants. Donc à l'époque, l'histoire où je vous racontais, eh bien, il avait à peu près la moitié, 200 000 habitants. Les gens sont, dans sa grande majorité, des gens de couleur, donc des noirs ou des mulâtres, avec une petite minorité donc de blancs qui sont venus surtout de la France, ou comme on dit là-bas, de la métropole. Voilà, l'économie, vous vous en doutez, en 1902, les gens vivent surtout de l'agriculture, et en particulier eh bien de la canne à sucre, et du sucre qu'on tire et du rhum. Eh bien, cette ville de Saint-Pierre a une particularité, elle n'est pas la capitale, mais c'est là où, voyez-vous, est la ville quand même la plus ancienne, puisque c'est là où les premiers colons français se sont installés donc au XVIIe siècle. Et alors, c'est une ville qui est très florissante. Elle compte à peu près 30 000 personnes à peu près. Elle est très commerciale. Il y a beaucoup de commerce qui se fait à l'extérieur, surtout avec la vente donc du sucre et surtout de le rhum, qui est très apprécié un peu partout. Dans cette ville florissante, il a de l'argent. Mais les gens aussi, malheureusement, ça arrive avec certaines villes, à cause bien sûr de cette facilité, à cause de cet argent, à cause de cette aisance, de l'argent qui ne manque pas. Vous en doutez aussi pour certains, je ne peux pas généraliser, je ne veux pas dire que tous les habitants de Saint-Pierre étaient des gens méchants, des gens mauvais, pas du tout. Mais malheureusement, cette ville a une réputation d'être une ville un peu folle. Et surtout, elle est très connue des aspects. Non seulement c'est une très belle ville parce qu'il a de belles maisons, faites en pierre de taille, ce qui était quand même assez beau pour l'époque, on l'appelait la perle des Antilles. Elle a un beau théâtre, les rues sont empirées, donc c'est une très belle ville. Mais elle est surtout connue parce que même des gens viennent de très loin, nous sommes en 1902, donc il y a presque un siècle, pour assister, peu avant le début du carême, voilà, ça tombe bien aussi, eh bien, au carnaval. Le carnaval. Et ce sera en quelque sorte le carnaval qui sera un petit peu la goutte qui va déborder les vases de la justice divine. Il devait y avoir, bien sûr, bien d'autres péchés surtout publics. J'insiste surtout sur les péchés publics, sur ceux surtout qui s'étalent dans les rues, puisque cette ville, eh bien, est très connue pour cela. Non seulement par le fait qu'on fait le carnaval, vous direz, bon, le carnaval le fait depuis très longtemps, on le faisait comme ça le Mardi Gras, on s'amusait un petit peu avant de commencer, n'est-ce pas, cette pénitence qui était bien plus dure autrefois du carême. Mais non, ben là-bas, le carnaval est tout à fait spécial. Et il veut surtout être particulièrement, se singulariser par le fait, eh bien, que le carnaval veut apporter un petit peu tous les excès. Tout on vit là-dedans. Vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est. C'est un touriste aujourd'hui, encore malheureusement, puisque, vous vient le dire, malheureusement, le carnaval continue à se faire à la Martinique, et y compris à Saint-Pierre. Les gens n'ont pas su tirer la leçon de cette tragique histoire. Eh bien, le carnaval dure 5 jours, depuis donc ce qu'on appelle là-bas le samedi gras, jusqu'au mercredi décembre. Autrefois, me disaient les anciennes personnes, ceux qui ont quand même connu le carnaval à peu près comme à l'époque de Saint-Pierre, il disait que Saint-Pierre était la seule ville qui n'acceptait pas de faire comme les autres villes où on faisait le carnaval, s'arrêter le mardi gras, le soir, à minuit, on arrêtait. Les tambours s'arrêtaient, les fêtes s'arrêtaient, tous les gens rentraient. À minuit, on commençait le carême, c'était le mercredi des centres qui commençait. Non, à Saint-Pierre, on pensait qu'il fallait encore continuer à s'amuser. Et alors, ils ont innové avec le carnaval jusqu'au mercredi des centres. Et ça bien avant 1902. Donc, vous vous en doutez, n'est-ce pas, les gens les plus mondains, ceux qui aimaient bien sûr aller faire la fête, eh bien, tous les désordres étaient là-dedans, non seulement du point de vue de l'impureté, mais aussi l'alcoolisme, les crimes, tout ce que vous pouvez imaginer, l'immoralité, l'ébriété, les blasphèmes, eh bien, tout y passait. Et on avait surtout l'habitude de marquer 3 jours avec un thème. Le premier de ces 3 jours, eh bien, était donc le lundi gras. Et ce jour-là, eh bien, tous les gens devaient se travestir. Alors on se déguisait. Bon, se déguisait, bon, tant que ça restait avec des choses pudiques, à la limite ça passe, mais non. Saint-Pierre voulait surtout que ces déguisements, que ces travestissements, quelque part, eh bien, soient malheureusement surtout très impudiques. Et donc, même aujourd'hui, voyez-vous, malheureusement, c'est un débordement de toutes sortes de gens, on ne peut pas dire habillés, mais déshabillés. Malheureusement, c'est quelque chose de particulièrement affreux. Et le mardi gras, donc, c'est ce qu'on appelait la journée du diable, ou la journée des diablesses. Je n'exagère rien, c'est comme ça qu'on l'appelle encore aujourd'hui. Et ce jour-là, eh bien, tous les gens s'habillaient, cette fois-ci, en rouge. Et les gens se déguisaient en diable. Il fallait parodier un peu, il fallait le rendre gentil, un petit peu donner un visage gentil, amusant du diable. Vous vous en doutez bien sûr, le démon devait en être bien content. Et surtout le mercredi des cendres, puisque ce jour-là, Saint-Pierre arrêtait le carnaval, et bien ce jour-là, les gens s'habillaient en noir. Ils faisaient un faux deuil. Les gens habillaient en noir parce que ce jour-là, le carnaval finissait et alors on faisait une grande bonhomme avec du tissu, de la paille, etc., qu'on brûlait dans la place principale, donc tout au bord de mer à Saint-Pierre. Et alors les gens faisaient semblant de pleurer parce que le carnaval était terminé, comme ils appellent là-bas dans le créole, Vaval, c'est terminé. Et alors ce jour-là, évidemment, on faisait des simulacres et d'enterrements. Et surtout ce jour-là, où à mon avis, n'est-ce pas, ça a été particulièrement l'occasion de tout débordement, dont ce mercredi saint de l'année 1902, pardon, ce mercredi décembre de l'année 1902, les gens n'ont pas trouvé de mieux, puisque chaque année le carnaval avait un thème, Eh bien, de prendre en dérision les sujets de l'Église, les objets saints. Et ce jour-là, qu'est-ce qu'on a fait? Des gens se sont habillés en prêtres, d'autres en religieuses, d'autres en évêques. On dit que même quelqu'un, pour faire plus malin que les autres, a déguisé un âne, un évêque. Eh bien, tout ce jour-là était l'occasion de faire du simulacre, apporter soi-disant de l'eau bénite. La place de l'eau bénite qui en aspergeait, voyez-vous, les cercueils, c'était du rhum. Et tout ça se voit encore aujourd'hui, malheureusement. Et alors ce jour-là, eh bien cette année-là, ce carnaval a plu bien sûr à tous ceux qui sont allés là-bas, sauf bien sûr à ces quelques âmes, parce qu'il faut bien le dire, il avait des âmes certainement qui étaient très choquées de voir ce qui s'était passé. Mais ça n'était rien. Les esprits étaient déjà un peu échauffés, puisque, et c'est là, eh bien, s'est greffé un deuxième élément qui va particulièrement aussi amener, à mon avis, l'excès au plus haut point de cette année-là, de cette ville. Eh bien, c'est le fait que cette ville est particulièrement gouvernée, particulièrement dirigée par la franc-maçonnerie. Il a beaucoup de maçons, beaucoup de loges maçonniques. Et d'ailleurs, Saint-Pierre, les hommes riches, les hommes importants de la politique ou dans les commerces, sont pour la plupart des francs-maçons. Et alors, il tient donc que cette année-là, évidemment, derrière tout cela, à s'attaquer particulièrement à l'Église. Et en plus, il faut bien situer 1902, parce que 1902 se situe eh bien, dans toute une campagne qui va durer à peu près 5 ans en France, entre 1901 et 1906, par lesquels, eh bien, des francs-maçons, ce qu'on appelait là-bas des républicains, eh bien, étant arrivés au pouvoir, vont chercher par tous les moyens à faire une propagande particulièrement haineuse contre l'Église catholique. Pourquoi? Ils demandent la séparation de l'Église et de l'État. Eh bien, pour cela, depuis donc 1901, depuis un an, eh bien, les esprits s'échauffent. Les francs-maçons sortent dans les places publiques et la politique, évidemment, en souffre. La politique est bien sûr imprégnée de cela. Il y a un parti, bien sûr, qui est pour l'Église, quelques-uns qui encore essaient de défendre les valeurs de l'Église, et bien sûr les francs-maçons qui ont leur parti politique sur place. Et en plus, nous sommes donc en 1902, donc cette année-là, aussi on a prévu en particulier des élections législatives. On doit élire donc des députés. Et ces élections donc doivent avoir lieu peu de temps donc après Pâques. Donc cette année-là, donc le carnaval avait duré exactement, j'essayais de retrouver les dates, ce sont curieusement les mêmes dates que l'année dernière, c'est-à-dire par rapport au calendrier liturgique. Le carnaval a duré du 8 au 12 février. Donc nous avons dit qu'il s'était distingué en choisissant donc des thèmes blasphématoires. Et c'est curieux, à partir de ce moment-là, donc on est dans cette double effervescence, je vous avais dit, celle du carnaval, celle aussi bien sûr de la politique, puisque ce sera bientôt, donc en avril et en mai, ce seront donc bientôt les élections, et que vous vous souvenez, n'est-ce pas, j'insiste beaucoup sur ça, donc il a cette fébrilité politique, parce que pour une fois, pour la première fois, le député sortant, qui n'était pas un député franc-maçon, eh bien risque eh bien, de se trouver d'abord en ballotage et probablement de perdre les élections. Alors vous imaginez bien sûr, les francs-maçons se frottent les mains parce qu'ils sont excités. Ils se cherchent par tous les moyens à exciter les esprits contre l'Église. Parce que l'autre candidat, eh bien, c'est les candidats de l'Église, quoique il ne l'était vraiment que de nom. Mais enfin, tout est bon, voyez-vous, pour discréditer et dire du mal de l'Église. Et curieusement, donc c'est justement, c'est un début février. J'ai retrouvé encore ces renseignements dans les statistiques volcanologiques, donc à propos du volcan, qui nous parle justement que les premières manifestations du volcan, ce volcan qui va détruire la ville, eh bien, sont justement commencées début février. Ce n'est pas exactement la date, je n'ai pas pu avoir d'autres renseignements, vous en doutez, je n'ai pas beaucoup de livres à m'apporter ici au séminaire, mais enfin, il est dit que c'est début février que ce volcan va commencer à fumer. Il n'a pas eu d'activité de ce volcan depuis 1851. Et avant ça, il faut remonter au XVIIIe siècle. Et la seule éruption dont aujourd'hui les volcanologues nous parlent, c'est jusqu'au XIVe siècle. Donc, avant même l'arrivée donc de Christophe Colomb. Donc les gens se souviennent surtout qu'en 1851, il a eu aussi des manifestations, mais c'était plus de peur que de mal. C'est vrai, les volcans avaient fumé, avaient fait du bruit, le volcan est tout près. À vol d'oiseau, c'est même pas 10 km de distance. C'est même la ville, elle s'étend, si vous voulez, sous le pied et même sur un peu sous le flanc de la montagne Pelée, qui est immense, qui est très grande. Donc, voyez-vous, les gens se disent, 1851, ceux qui s'en souviennent, ceux qui ont entendu parler, bon, c'était plus de peur que de mal, les gens ne donnent pas beaucoup d'importance. Mais alors, les semaines passent. Nous passons donc du 12 février, cette date donc, je vous avais dit, la fin du carnaval, et nous arrivons le vendredi saint. Vendredi saint, quel symbole! Et c'est le 28 mars, donc même pas deux mois plus tard. Alors, encore ces gens-là, réchauffés par le carnaval et par cette campagne anticléricale, anticatholique, eh bien, qu'est-ce qui va arriver? Un groupe de malins, un groupe d'imbéciles, il faut bien les traiter comme ils sont, comme ils méritent, eh bien, vont prendre une croix, vont la traîner, vont l'attacher à une corde, et vont la traîner la nuit du Vendredi Saint, dans la rue principale de Saint-Pierre, la rue qui s'appelle la rue Victor Hugo, qu'on voit encore aujourd'hui, qui a été un peu dégagée, on la voit encore. Eh bien, vont traîner une croix, pour faire les intérêts saints, pour faire les idiots. Et alors, ils vont la traîner. Beaucoup de gens vont voir ça. Les curés, évidemment, ont été mis au courant. Pas de manifestation particulière pour faire donc des réparations de cette offense. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ces petits malins vont arriver, vont aller un peu plus haut de la ville, et là, dans une crevasse, on ne sait pas trop exactement où aujourd'hui, puisque tout ça a été recouvert après par l'éruption, eh bien, vont jeter dans une crevasse, tout au pied du volcan, cette croix. Sa valeur de symbole, puisque ce sera justement par ce volcan eh bien, que le bon Dieu va punir cette ville. Donc c'était le 28 mars. Presque un mois plus tard, eh bien, on aura le premier tremblement de terre sérieux. Le volcan fume, on l'entend gronder un petit peu en haut, mais les gens se rassurent, ce sera comme en 1851, il ne faut pas craindre. Donc un fort tremblement de terre dans toute la région, alors par contre, alors ça va faire secouer au propre et au figuré, voyez-vous, les gens. Premier signe d'ordre d'activité du volcan, des fumées qui deviennent de plus en plus importantes. Ils vont même tomber des cailloux, des petits cailloux, qu'il appelle la pierre ponce, qui sortent justement des volcans. Et une cendre très fine, presque blanche, voyez-vous, va s'étaler un peu partout, comme une plus fine. Alors ça, bien sûr, ça attire la curiosité des gens, puisque ça donne un peu un aspect presque à la fois lunaire ou presque de la neige. Les gens se disent, ça ressemble un petit peu à la neige. Les gens, très insouciants, ne vont pas donner d'importance à ça. Mais alors, deux jours plus tard, nous sommes donc en plein semaine saint, le 23 avril, il vient le dimanche de Rameau. Donc, deux jours plus tard, le 25 avril, qui est le mardi saint, encore une détonation beaucoup plus importante, cette fois-ci souterraine. Les gens vont sentir vraiment sous leurs pieds une immense explosion, détonation. Il secoue, et de nouveau une pluie des cendres, donc à 7h et 8h du matin. Surtout un village qui est un petit peu plus au nord, qui est plus près en quelque sorte, si vous voulez, du cratère, du volcan, eh bien, a souffert sur tout cela, a été couvert par les cendres, mais pour l'instant, pas de maison détruite, pas de mort, rien du tout, les gens continuent à comme si rien n'était. Alors, fin avril, eh bien, c'est seulement vers la fin donc, du mois d'avril que le gouverneur, qui n'habite pas à Saint-Pierre, mais à la capitale qui est Fort-de-France, qui est une ville plus petite, mais c'est là où se trouve l'administration, le gouverneur va être inquiet, évidemment. Il faut faire quelque chose. Alors il va nommer une commission à laquelle il va donner le titre renflant, la commission scientifique. Alors ça arrive souvent, les gens veulent toujours être rassurés par d'autres gens. Il faut surtout être rassuré. Alors ces commissions scientifiques, la personne la plus compétente là-dedans, je n'ai rien contre les professeurs des sciences naturelles des collèges, mais l'homme le plus scientifique, c'est celui qui enseigne les sciences naturelles au collège de Saint-Pierre, donc ce n'est même pas un vulcanologue, ce n'est même pas quelqu'un qui a les qualifications, mais il faut faire quelque chose qui puisse impressionner les gens, qui puisse donner un peu du sérieux à cette commission scientifique. Et alors cette commission va envoyer quelques personnes qui vont monter au cratère inspecté. Donc, on se dit, bon, ça commence à fumer, c'est vrai. Les gens ont été surpris surtout de voir qu'il a des oiseaux, qu'il n'a plus d'oiseaux, si vous voulez, sous les abords de la montagne, des reptiles et surtout des serpents qui sont très nombreux dans l'île. On les voit arriver partout. Alors, les gens sont affolés. Parce qu'il a des odeurs de soufre, maintenant, voyez-vous, qui commencent à se sentir, bien sûr, dans la ville. Il a la cendre, il a donc les tremblements des terres, il a les grondements, et maintenant, les soufres, et bien sûr, les animaux qui fuient le cratère. Mais les gens se veulent toujours très rassurés, puisque la commission scientifique est là, elle dit, pas de problème. Donc, le 27 avril, qui est un dimanche, nous arrivons donc au fameux premier tour des élections. C'est un tour des élections où les gens, bien sûr, vont être très échauffés, très serrés, au point, bien sûr, que, comme je vous le disais, le candidat sortant, qui n'était pas les candidats de la franc-maçonnerie, n'a pas pu gagner, il était même mis en ballotage, donc de part pour le deuxième tour qui devrait avoir lieu, en principe, le 11 mai. Mais alors, le gouverneur s'inquiète, il s'est dit... Il se peut, et surtout puisque Saint-Pierre est la ville la plus grande, c'est celle qui va donner l'exemple aux autres, il ne veut surtout pas que les élections se gâchent. Il se dit, la situation, c'est vrai, le volcan devient de plus en plus alarmant, mais je ne veux pas que les gens quittent la ville. Et alors il va donner l'ordre à des gens, il ne va pas les forcer à rester, mais il va donner l'ordre aux gens de rester. Il faut que tout le monde reste pour le deuxième tour, parce que les élections politiques, ça c'est très important. Et alors, donc, ainsi vont passer les jours. Nous arrivons donc le 5 mai, 3 jours, donc à peine avant la catastrophe. Alors, cette fois-ci, le 5 mai, les choses sont beaucoup plus sérieuses. Voyez-vous, le crescendo des événements, et les gens commencent seulement à partir du 5 mai à s'inquiéter. Qu'est-ce qu'on va voir le 5 mai au matin? On va entendre un grondement, comme quelque chose qui déballe les pentes de la montagne. C'est une immense masse boueuse, c'est de la boue, très chaude, qui dévale les pentes de la montagne et ensevelit donc une distillerie qui n'est pas très loin de la ville, qui n'est pas dans le bourg même, qui est en sortant, en allant vers le Prêcheur, qui est donc le village un peu plus au nord. Et cette distillerie sera complètement ensevelie par la boue. 23 morts. Alors les gens commencent à s'inquiéter, puisqu'ils vont se dire, eh bien, ils craignent ça maintenant pour Saint-Pierre. La commission scientifique est là pour leur dire, vous n'avez rien à craindre, ça c'est quelque chose, souvenez-vous, 1851, rien n'est arrivé, rassurez-vous. Mais les gens quand même, le plus prudent, commencent à quitter la ville. Ils vont se dire, ça sent le roussi. Eh bien, le plus prudent, eh bien, veulent se mettre à l'abri à Fort-de-France ou un peu plus loin. Mais alors, les gens aussi des communes voisines pensent qu'ils vont pouvoir trouver plus d'abri à Saint-Pierre et alors vont quitter les 3 villages avoisinants et vont venir se réfugier à Saint-Pierre. Et la cendre continue à tomber de plus en plus. C'est plusieurs centimètres maintenant de ces cendres qui ressemblent à de la neige qui maintenant s'accumule un peu partout. On la sent partout, les gens respirent la cendre. Les animaux, certains oiseaux meurent, évidemment, ne pouvant plus respirer un air pur, un herbicier. Eh bien, les récoltes commencent à se perdre, et particulièrement la canne à sucre, puisque bien sûr, les feuilles ne peuvent plus faire la photosynthèse à cause de la cendre qui est partout à couvert. La visibilité diminue, les rivières commencent à grandir, donc à grossir, et les gens commencent à souffrir, bien sûr, de morts respiratoires. Donc, nous sommes 3 jours avant. Le 7 mai, maintenant, alors la commission scientifique, il faut, puisque les gens sont de plus en plus alarmés, il faut donner une conclusion. La voici. C'est vraiment sidérant d'entendre cela. Enfin, qu'il soit dit au passage, bien tous les membres de cette commission scientifique, bien sûr, vont périr dans la catastrophe. Voici la conclusion. Tous les phénomènes qui se sont produits jusqu'à ce jour, donc la veille de l'éruption, donc le 7 mai, n'ont rien d'anormal. Et sont au contraire identiques aux phénomènes observés dans tous les autres volcans. Point. Rien à craindre. Et le gouverneur, pour rassurer les gens, va se dire, moi, je vous donne ma parole, je me donne même un gage. Il a quitté donc Fort-de-France, la capitale, il est venu s'installer avec son épouse. Je viens habiter à à Saint-Pierre, vous n'avez rien à craindre, je suis là. Je suis là. Tant que je suis là, le volcan ne nous fera rien. Il a dû peut-être penser cela. Mais en tout cas, le bon Dieu en a décidé autrement. Et alors, le 7 mai au soir, donc nous sommes à quelques heures à peine de l'éruption de ce volcan, eh bien, il a de nouveau un éboulement, et particulièrement de cette boue, de la terre, des pierres, va ensevelir une partie, un quartier d'un village voisin qui s'appelle Le Prêcheur. 400 personnes sont mortes noyées ou ensevelies dans la boue par cet éboulement épouvantable. De ça, on en parlera que très peu, puisque, bien sûr, la destruction du lendemain, du 8 mai, de Saint-Pierre, bon, c'était tellement impressionnant qu'on ne pensera même plus à ces 400 personnes qui sont mortes à côté. Nous arrivons donc le 8 mai, nous sommes à quelques jours à la fois, voyez-vous, de deuxième tour des élections qui doivent avoir lieu le dimanche suivant. Le 8 mai, c'est un jeudi, c'est le jeudi de l'Ascension. Le jeudi de l'Ascension, qui est donc l'habitude, en tout cas aux Antilles, l'habitude du jour où on fait les premières communions. Alors les gens sont en préparatif. Les gens pensent, bien sûr, on peut dire que ceux qui sont morts les mieux préparés à cet événement, eh bien, c'était probablement ces petits-enfants qui s'étaient confessés, qui s'étaient préparés à cette première communion. Certains, probablement, n'ont pas pu communier, puisque la catastrophe aura lieu tôt le matin. Donc, nous sommes le jeudi, nous sommes le 7 au soir, nous sommes à quelques jours du deuxième tour des élections, jeudi de l'Ascension, 8 mai. Le jour se lève. Et alors les gens sont surpris de voir que même si la montagne continue à fumer, eh bien il a plu dans la nuit et alors le ciel est dégagé. Généralement là-bas, dans les Antilles, il y a beaucoup de gros nuages, mais enfin pas toujours qu'il y a-t-il de la pluie. Mais en tout cas, les gens sont rassurés, vont se dire c'est très bien. Mais certaines personnes se sont dit aujourd'hui, j'en ai connu même les fils d'un monsieur qui est parti le 8 au matin, à 5 heures du matin. Et pour sa famille, ne voulait pas qu'il parte. Il était encore jeune, il n'était pas encore marié. Et pour qu'on ne l'entende pas, il va attacher, si vous voulez, du linge aux quatre pattes du cheval, pour ne pas entendre qu'on l'entende partir. Et il va partir. Et il va lui-même voir, d'ailleurs, d'assez loin, mais dans un endroit où il était protégé, l'éruption du volcan. Et alors, dans ces jours de première, comme nous l'avons dit, les églises sont remplies. Donc, dès 7h45 du matin, une pluie de petites pierres commence à tomber sur la ville. Un peu comme de grelons, si vous voulez, qui tombent un petit peu. Des gens qui expliquent un petit peu ce phénomène. C'est que c'est la pierre ponce qui a été éjectée par le volcan, mais en petite quantité. Et alors, c'est à 8h02, on a pu le savoir par quelques horloges qui se sont arrêtées à cette heure-là, et par le détonnement aussi de certains qui l'ont vu depuis la mer ou qui ont entendu de d'autres endroits. À 8h02, une immense explosion va secouer toute la région, tout le nord. Alors, l'onde de choc, à une vitesse, c'est d'après ce que les scientifiques ont pu l'établir, une vitesse de 130 à 150 mètres à la seconde, c'est-à-dire plus de 500 km à l'heure. Donc c'est une onde de choc qui va d'abord s'abattre sous la ville. Une minute et demie pour dévaler. On sait que la partie supérieure, c'est-à-dire le cône du volcan, s'est fissuré. Une onde de choc, un peu comme si on avait fait exploser je ne sais pas combien de tonnes de dynamite. Certainement une explosion épouvantable et qui va aller tout droit sous la ville. Voyez-vous, le volcan, c'est ce qu'il y a d'ailleurs de plus imprévisible, parfois dans certains volcans, on ne sait pas trop, pour ce type de volcan, dans quelle direction il va exploser. Parce que ce volcan est très dangereux. C'est un peu comme si vous mettez à chauffer une marmite, coco de minute, et vous ne lui donnez pas de sortie. Alors on ne sait pas trop par quel endroit, finalement, la marmite va céder. C'est un peu ça, le volcan. Et il a cédé exactement en ligne droite sur ce volcan. Eh bien, et d'abord, il a l'onde de choc, un peu comme dans une bombe. Et alors, toutes les maisons, bien sûr, surtout et les parois et les murs qui se trouvent parallèles, si vous voulez, au volcan, vont être écrasés. Alors, les gens vont mourir, certains vont mourir écrasés, d'abord, les premiers morts, ou ensevelis sous les décombres. Mais comme si ça n'était rien, deuxième partie, c'est ce qui est particulier à ce volcan, ce qu'on appelle les nuées ardentes, va sortir des entrailles du volcan. Une nuée ardente qui contient Donc un peu de les gens qui l'ont vu un peu de loin disent un peu comme si c'était du lait qu'on a fait chauffer, n'est-ce pas, qui se déborde, dit Marmite, voyez-vous, comme ça, qui de loin paraissait avancer plus lentement. Effectivement, cette nuée ardente va arriver plus tard. Elle est composée de gaz, des cendres, de pierres ponces, et surtout à une température de 800 degrés. Alors, c'est là où suit cette nuée ardente, personne absolument ne peut survivre. On m'a même trouvé, je l'ai vu puisqu'on a fait un musée, après avec les choses qu'on a retrouvées, du verre fondu. Le verre a fondu. Et donc, en moins de 2 minutes, cette explosion, eh bien, cette fois-ci, eh bien, la nuée ardente va couvrir la ville. Alors là, il ne faut pas imaginer qu'il ait des survivants. Il n'a pas eu de survivants. Alors, on a voulu après raconter qu'il a eu 2 personnes, même 1 personne qui aurait survécu. C'est absolument impossible. C'est physiquement impossible. D'abord, par l'explosion. Bon, quelqu'un aurait pu survivre à l'explosion. Mais ensuite, voyez-vous, quelqu'un qui se fait rentrer, ne serait-ce que pendant quelques secondes, dans un four chauffé à 800 degrés, comment est-ce qu'il peut lui-même survivre? Et quel air va-t-il respirer? C'est impossible. Enfin, aujourd'hui, on raconte aux touristes qui viennent visiter les ruines de la ville, eh bien qu'il aurait survécu. C'est absolument impossible. C'est physiquement impossible. D'abord, par l'explosion. Bon, quelqu'un aurait pu survivre à l'explosion. Mais ensuite, voyez-vous, quelqu'un qui se fait rentrer, ne serait-ce que pendant quelques secondes, dans un four chauffé à 800 degrés, comment est-ce qu'il peut lui-même survivre? Et quel air va-t-il respirer? C'est impossible. Enfin, aujourd'hui, on raconte aux touristes qui viennent visiter les ruines de la ville, eh bien qu'il a eu un survivant, c'est impossible. Donc, et comme si rien n'était, comme si donc ceux qui ont survécu à l'onde des chocs, mais non, mourir calciné, brûlé. Ça a dû être quelque chose d'épouvantable. Il avait 30 000 personnes parce que, bien sûr, la ville comptait 30 000 personnes. Vous allez dire, mais et ceux qui sont partis, évidemment. Il a eu environ 10 000 personnes, on dit à peu près, qui ont réussi à fuir un peu plus au sud et qui ont été épargnés, qui se sont sauvés avant l'éruption. Mais il ne faut pas oublier que les villages voisins sont venus aussi se réfugier. Donc ça avait gardé à peu près 30 000 personnes, 28 000, 30 000 personnes qui sont mortes d'un coup. Je ne suis pas la peine de vous décrire évidemment ce qu'après, lorsqu'on a fouillé, on a trouvé des scènes absolument terribles, où même certaines personnes, lorsqu'on est venu apporter seulement quelques jours après les secours, parce qu'on ne pouvait pas rentrer tout de suite, à cause justement de cette troisième vague dont je vais vous parler, c'est la cendre. L'onde de choc, la nuée ardente, et ensuite la cendre qui va couvrir. La cendre vient à servir à éviter, tout simplement, il faut bien le dire, une épidémie dans l'île. Vous imaginez 30 000 corps, même s'ils ont été brûlés, eh bien la décomposition sous ce climat aurait fait évidemment une épidémie dans toute l'île. Eh bien, c'est la cendre qui va couvrir un peu. Dans certains endroits, la cendre va faire plusieurs mètres de haut, ou la pierre ponce. Eh bien, il offrira, comme je vous disais tout à l'heure, plusieurs jours pour pouvoir arriver. Alors, certains bateaux qui sont sous la rade, certains ont été absolument renversés par l'onde de choc. Un seul réussit à s'échapper avec je ne sais pas combien de tonnes de cendres sous le pont. Des personnes sont brûlées et vont aller tout simplement raconter. Et à Fort-de-France, ils vont s'empresser à aller jusqu'à Fort-de-France, le seul bateau qui survivra, voyez-vous, à cette catastrophe, pour raconter ce qu'ils ont vu. Ici, il disait d'ailleurs, écrivait, après envoyer un télégramme, le capitaine de ces bateaux, qui racontait tout simplement, je viens de sortir de l'enfer. Eh bien, comme si rien n'était, eh bien, quelques semaines plus tard, si vous voulez, le 20 mai, eh bien, une deuxième éruption va venir détruire ce qui n'était pas détruit. Et comme si rien n'était encore, le 30 août, une éruption à peu près similaire à la première, il n'y a pas de lave, vous avez bien compris, ce n'est pas comme dans certains volcans, on se dit, là, la lave, non, ça ne coule pas de lave, c'est ça, c'est l'explosion, c'est la nuée ardente, ce sont les cendres, etc., qui étaient donc, c'est un village qui qui est sous le chemin du volcan, qui avait été épargné lors de la première éruption, qui s'appelle le Morne Rouge, où se trouve d'ailleurs symboliquement l'image. On a construit et un sanctuaire pour garder la statue patronne de l'île, Notre-Dame de la Délivrande, qui a été donc amenée là vers le milieu du siècle dernier, lorsque le premier évêque est venu s'installer à la Martinique. Eh bien, j'ai vu des photos. Eh bien, cette église avait été pratiquement détruite, à 90%. Et miraculeusement, l'endroit, un peu à cet endroit, voyez-vous, du côté, si vous voulez, évangile, où se trouve la Vierge, l'endroit complètement protégé. Donc, la ville de Morne-Rouge. Au point que la statue a été donc amenée à Fort-de-France, où on a construit une église pour la garder avant qu'on puisse reconstruire donc, le village du Morne-Rouge, donc le 30 août. Et à cette éruption, il y a eu beaucoup moins de victimes, puisqu'on avait réussi quand même à faire évacuer des gens. Après la première éruption, à peu près 1000 personnes sont mortes, ce qui est quand même pas mal. Les conséquences de la catastrophe sont terribles, et la Martinique, jusqu'à aujourd'hui, ne se relèvera pas de cela. 30 000 morts, nous avons dit, 15 000 réfugiés à peu près, dont beaucoup d'orphelins aussi, dont certains de leurs parents, ou des parents qui aussi qui ont perdu leurs enfants, qui étaient en pensionnat, des prêtres, des religieuses. Il y a même aujourd'hui dans le cimetière à Saint-Pierre, quand on visite, une liste, une plaque de marbre où on énumère par dizaines les prêtres et les religieuses qui sont morts. Beaucoup de sinistrés, bien sûr, vont quitter finalement la ville parce que les gens ne veulent plus retourner, vous en convenez, eh bien, dans l'endroit. Il faudra plusieurs années avant que les premières personnes osent à peu près revenir dans la ville et commencer à fouiller, à enlever, à dégager eh bien, les cendres. 15% donc de la population de l'île disparaît, ce qui n'est pas rien, dont 3/4 donc des blancs, des gens blancs. Certaines familles ont entièrement disparu. Des noms, des familles nombreuses sont tous péris, dans la catastrophe. Une ville donc et 3 villages détruits, l'économie sinistrée, vous pouvez bien comprendre, eh bien, puisque la ville de Saint-Pierre était la ville eh bien, qui entraînait évidemment le plus de commerce, eh bien, ce sera très très dur. Une grande impression fera non seulement en France, mais dans le monde. Il suffit, si vous avez, par exemple, vous pouvez voir dans les archives de l'illustration de 1902, je l'ai vu, eh bien, des images, des reportages terrifiants, eh bien, sur ce que les gens ont vu. Et ensuite, donc, les gens vont revenir dans les années 20, se réinstaller. On veut reconstruire à tout prix cette ville. Les volcans semblent se calmer. 1929, de nouveau, l'éruption, une autre éruption. Les gens ont dû quitter la ville. Cette fois-ci, il n'y a pas eu de victimes. Et ensuite, il faudra attendre les années 30 pour que les gens, eh bien, se décident enfin. Et depuis à peu près, donc, l'éruption de 1929, plus d'activité. Aujourd'hui, c'est une petite ville qui a été reconstruite, on essaye un peu de fouiller à droite et à gauche. Vous la visitez aux touristes, visitez les ruines. Les gens regardent ça, voyez-vous, avec beaucoup de désinvolture, les touristes, etc., sans se soucier véritablement ce qui est derrière. Donc, je vous raconte, bien sûr, ces détails, non pas pour faire plus croustillant ce qui est dans cette histoire, parce que c'est quand même une histoire tragique, 30 000 personnes, et même plus, qui sont mortes. Mais c'est parce que, à mon avis, je vous l'avais promis, il faut tirer une leçon. La leçon de Saint-Pierre. Est-ce que véritablement on peut dire que Saint-Pierre a été détruite comme un exemple de la justice de Dieu ou pas? Eh bien, j'essayais un petit peu de résumer, d'énumérer justement ces raisons. J'en ai trouvé 8. Et vous verrez d'ailleurs, j'en exagère rien. Et à mon avis, c'est un exemple pas seulement pour la Martinique et la France et le monde entier. D'un côté, voyez-vous, d'une façon générale, l'aveuglement des gens. Les gens, même face au danger, à ce danger imminent, voyez-vous, les gens ne réagissent pas. Ils veulent toujours être rassurés par d'autres hommes. On peut dire que les causes sont multiples. Donc, d'abord, le carnaval. Ce carnaval, qui a été particulièrement blasphématoire. Donc, les premiers signes alarmants, nous l'avons dit, vont apparaître juste en même temps où se déroule ce fameux carnaval blasphématoire. Et ensuite, je ne vous l'avais pas encore dit, c'est la deuxième raison, à mon avis, par laquelle eh bien, tout cela va mener à ce que le bon Dieu va punir cette ville, eh bien, c'est la persécution qu'on va faire à son évêque. Et ça, ce n'est que plus tard, et lui-même par discrétion, il ne m'aura pas tellement parlé de cela. Eh bien, l'évêque n'est pas mort. dans sa ville, puisqu'il va résider dans sa ville. C'était, s'appelait Monseigneur de Cormont. Il venait d'être persécuté depuis un peu plus d'un an, justement par ces francs-maçons qui tiennent le pouvoir politique et économique de l'île, l'ont accusé, ni plus ni moins, qu'auprès du gouvernement à Paris. Alors il vient de partir, il est à Paris, quand il entend, vous pouvez bien imaginer la sensation terrible qu'il a dû éprouver, eh bien la destruction de Saint-Pierre. Alors, on raconte, ce sont des questions, j'ai toujours entendu, bien sûr, me raconter cela à la Martinique, mais par des personnes très sérieuses, on raconte que lorsque Monseigneur de Cormont était s'apprêtait à s'embarquer pour partir à Paris, pour prendre donc le bateau jusqu'à Bordeaux, eh bien, quelques personnes, certainement poussées par ces francs-maçons, de gens tout à fait désœuvrés, lui ont jeté quelques pierres sur lui, montant, voyez-vous, sous le bateau. Et alors, des gens disent, certains disent, j'ai entendu des personnes raconter cela, il aurait dû lui dire lui-même, parce que vous n'imaginez pas, je ne rentre pas dans les détails, les misères et la gravité des accusations dont il avait été lui-même victime. Il va dire, eh bien, ces pierres vous tomberont sous la tête. Il ne pouvait pas dire mieux. Et ensuite, nous l'avons dit, troisième raison, eh bien, Saint-Pierre était donc le fief de tout ce qui était anti-religieux, tout ce qui était contre l'Église. Nous avons dit que Saint-Pierre possédait plusieurs loges maçonniques. Ils avaient complètement corrompu, évidemment, la politique. Ils voulaient s'en servir, évidemment, encore une fois, dans cette ambiance d'anticléricalisme, d'anticatholicisme qu'on vivait non seulement à la Martinique, mais aussi en France. Saint-Pierre, quatrièmement, était une ville très frivole, matérialiste, insouciante. Voyez-vous, l'aisance matérielle est bien donnée, évidemment, à ce que les gens, bien sûr, amenaient à tous les excès. Il avait, bien sûr, et il faut que je sois quand même fidèle à la vérité, il avait certainement des saintes personnes, des personnes très bonnes, qui vivaient dans cette ville et qui sont mortes aussi dans cette catastrophe. Cinquièmement, la profanation, nous l'avons dit, donc de cette croix, le vendredi saint. Et alors là, je vous raconte quelque chose aussi dont j'ai appris à peine l'année dernière et qui m'a aussi moi-même coupé le souffle. Mélanie, je crois, son nom de famille c'était Calva, je crois, Mélanie Calva, qui était donc un des deux à qui la Sainte Vierge s'est apparue à la Salette, souvenez-vous. Donc notre brave Mélanie, lorsqu'elle était religieuse, elle vivait encore en 1902. Et alors, lorsque son confesseur est venu lui raconter que la ville de Saint-Pierre, puisqu'on en parlait partout, venait d'être détruite, enfin, si vous imaginez, les communications nous sont arrivées que bien deux semaines après, eh bien Saint-Pierre venait d'être détruite, eh bien, elle a dit, j'ai vu cette destruction de Saint-Pierre. Comment ça? Vous l'avez? Oui, je l'ai vu au moment où Saint-Pierre était détruite. Mais alors, son confesseur voulait savoir pourquoi cette ville a été détruite. Et il va lui dire, eh bien, à cause justement des péchés, et particulièrement des péchés de profanation. Il va faire allusion, bien sûr, à cette croix, dont on vérifiera, bien sûr, plus tard, effectivement, que le vendredi saint de cette année-là, 1902, donc quelques semaines à peine de la destruction de la ville, eh bien, cette croix avait été profanée. Mais il a dit, à juste titre, son confesseur, mais des profanations, des sacrilèges, on en voit partout, de par le monde. Pourquoi le bon Dieu, eh bien, a voulu punir cette ville? Eh bien, Mélanie lui a répondu simplement. Il a dit, parce que personne n'a voulu faire réparation. Personne. Et en effet, les gens qui se sont sauvés avant la destruction, en effet, racontent, eh bien, qu'il n'a jamais eu vraiment. Les prêtres, malheureusement, qui avaient ce devoir de le faire, il en avait beaucoup qui habitaient à Saint-Pierre, aucun n'a voulu faire réparation publique. Il ne faut jamais oublier ça. Quand il a des offenses publiques, il faut réparer publiquement. Et là, je reviens sur cette phrase de Saint-Augustin, je vous la citais tout au début, parce que les bons ne sont pas assez bons. Voilà. Je vous inciterai d'ailleurs plus longuement Saint-Augustin qui parle justement de cela. Ensuite, les circonstances, on peut dire même vulcanologiques, étonnantes. Ce volcan aurait pu exploser d'un 360 degrés, tout à la ronde. C'est juste droit. Il faut savoir que la plupart de l'arc, si vous voulez, autour de cela, ce n'est pas habité, surtout le nord. Plus de 180 degrés tout au nord du volcan, pas de village, pas d'habitation, c'est la forêt vierge, etc. Il a fallu que ce soit directement sur Saint-Pierre. C'est plus qu'une coïncidence. Nous avons dit aussi, n'est-ce pas, les événements particulièrement de ce volcan qui vont commencer à apparaître, surtout à partir de ce fameux carnaval. Et ensuite, par des avertissements donnés par le bon Dieu. Oui, il a eu des avertissements. Et ça, je l'ai appris il y a près de 3-4 ans, lorsqu'une de nos fidèles a trouvé un livre, un vieux livre rare, qui avait été écrit par une religieuse d'une communauté de dominicaines qui s'appelle les Sœurs de la Délivrande, une communauté fondée à la Martinique au siècle dernier, et qui s'occupait surtout d'éducation et même des malades, qui maintenant sont aujourd'hui un peu près par le monde. Eh bien, il y a une religieuse qui habitait au Mont-des-Rousses, donc un peu plus haut que Saint-Pierre, à mi-chemin entre Saint-Pierre et la montagne, évidemment. Cet endroit où je vous disais, n'est-ce pas, qui est le sanctuaire de la patronne, eh bien, les sœurs sont juste à côté du sanctuaire. Cette religieuse a été surprise un jour, lorsqu'elle, puisque d'en haut de Mont-des-Rousses, on voit très bien Saint-Pierre encore aujourd'hui, elle était là en train de se promener une après-midi. Quand elle voit tout à coup, elle croit rêver, elle voit une sorte d'épée, mais d'épée en forme de flamme. Elle voyait de loin, elle disait, mais c'est pas possible. Elle n'a même pas osé parler autour d'elle de ce qu'elle avait vu au-dessus de Saint-Pierre, comme une épée, voyez-vous, comme ça, debout, la pointe sur Saint-Pierre. Elle s'est dit, je vais dire de ça, on va me prendre pour une folle. Et alors, ça c'est bien 2 mois avant la catastrophe, et un jour, lors d'une réunion avec d'autres sœurs de la communauté, à Saint-Pierre même, elle est descendue à Saint-Pierre, elle a entendu une autre religieuse dire qu'elle avait vu la même chose. Alors elle a dit, je parle ou je ne parle pas de ça. On va nous prendre toutes les deux alors pour des folles. Et en effet, toutes les deux, elle va corroborer. Alors donc je n'ai pas rêvé, j'ai bien vu cela. Eh bien, cette religieuse avait fait le vœu lorsqu'elle s'est trouvée à la deuxième éruption, souvenez-vous, celle du 30 août qui va détruire le village du Mont-Rouge, que si elle sortait indemne, eh bien, elle se ferait, elle changerait de congrégation et choisirait une congrégation plus exigeante. Elle s'est fait donc clarisse. Et puisque les communautés religieuses vont être expulsées en 1905, donc de France, elle va se trouver en Belgique. Et c'est là-bas, lorsqu'elle va raconter à sa supérieure ce qu'elle avait vu, sa supérieure l'a dit, vous allez mettre ça par écrit, et elle a écrit donc un livre avec des souvenirs de la Martinique, dont celui-là, eh bien, que j'ai eu l'occasion de lire. Je pourrais bien vous inciter d'autres, y compris, voyez-vous, des raisons pour le moins surprenantes, pourquoi il fallait que ce soit cette ville, y compris du point de vue scientifique, pourquoi cette ville, c'est quand même plus qu'un hasard, devait se trouver, eh bien, évidemment, sur ce chemin, le chemin de la justice de Dieu. Je ne parle pas, bien sûr, avec une façon péremptoire, je ne suis pas infaillible, mais à mon avis, il y a une autre chose, je termine par celle-là aussi à propos des preuves. Il y a une chose quand même étonnante, c'est que l'interprétation la plus courante des gens qui ont vécu, c'est les survivants et les habitants de la Martinique, ont tout de suite associé la destruction de cette ville avec la justice divine. Sorte d'unanimité curieuse. Les gens auraient pu, voyez-vous, par discrétion dans les malheurs, c'est vrai, dans ces circonstances, c'est très difficile, voyez-vous, de dire la vérité. Eh bien, les gens ont toujours associé cela. Les gens n'ont pas été, en quelque sorte, si vous voulez, les survivants eux-mêmes aussi, de la destruction de cette ville. Mais alors, puisque je devais vous parler, évidemment, de la justice divine, qu'il faut craindre la justice divine. C'est pour ça que je vous avais dit, je vous citais, eh bien, cette histoire. Et cette histoire a par elle-même, bien sûr, vous en doutez, vous venez l'entendre, des leçons à tirer. Je voudrais pour cela bien compléter avec 3 citations de l'Écriture sainte qui, à elle-même, eh bien, résume un petit peu aussi cette crainte que nous devons avoir de la justice divine. Deus nous dit, de Dieu, on ne se moque pas. Et ensuite, eh bien, dans le psaume 2, servez le Seigneur dans la crainte et réjouissez-vous en lui avec tremblement. Et vous savez très bien, n'est-ce pas, surtout les livres sapiencieux, particulièrement le livre des Proverbes, on en parle, qui nous dit aussi, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Cette crainte de Dieu est utile. La crainte de Dieu est utile. Et le commencement de la sagesse. Bien sûr, on peut craindre Dieu de différentes façons. Vous le connaissez, vous l'avez certainement étudié au catéchisme. On vous en parle tous les ans. Bien sûr, il y a d'abord la crainte servile. Donc c'est la crainte de la punition de Dieu, la crainte de ces événements, par exemple. La leçon, j'ai vu et je suis un peu surpris de redécouvrir aussi, et je ne me souvenais pas de mon séminaire, hein, donc je l'ai quitté ici en 84, qu'à l'époque, et pourtant on recevait déjà le journal à l'époque, de m'apercevoir que aussi maintenant au Valais, le carnaval est devenu quelque chose auquel on veut donner beaucoup d'importance. Et partout, à droite et à gauche, dans certaines villes, même les autorités officielles eh bien, se plaisent aujourd'hui à montrer le carnaval comme quelque chose de nécessaire, de sympathique. Il faut faire attention, il ne faut pas se laisser, voyez-vous, berner par des arguments qui sont souvent, bien sûr, des arguments matérialistes. Je me souviens à Martinique combien j'ai eu de mal au début. Donc je suis resté 11 ans, donc les premières années, lorsque chaque année, je voyais approcher le carnaval, il fallait que je parle en chair pour prévenir les fidèles. Le carnaval, ce n'est pas bon. Les meilleurs chrétiens ne vont pas au carnaval. Le carnaval, même si c'est pas avec tous les débordements qu'on peut imaginer à Rio de Janeiro, ou je ne sais pas trop où, où se comptent par dizaines ou par centaines les morts, eh bien le carnaval reste quand même profondément imprégné d'un esprit mondain. Et c'est l'occasion de tous les désordres, de tous les débordements. Alors donc, c'est en quelque part, si vous voulez, puisque c'est quelque chose qu'on, j'ai l'impression un petit peu, qu'on redécouvre, ou qu'on est en train de prendre ampleur, eh bien dans le Valais, que je vous en parle. Je me souviens très bien, d'ailleurs, dans notre petite école, ça pour l'anecdote, à la Martinique, où le vendredi gras, donc juste avant de partir aux vacances de carnaval, comme on appelle là-bas, eh bien, les premières années, on avait du mal à faire comprendre aux petits Antillais, même aux petits métropolitains qui étaient là, eh bien, que nous ne fêtions pas le carnaval. Eh bien, dans notre école, on ne fête pas le carnaval. Eh bien, le vendredi, puisqu'en plus c'était le jour où on disait la messe pour les enfants, eh bien, c'était un jour surtout de pénitence et de prière. Et ça, les enfants ont fini par les comprendre eh bien plus facilement que les adultes. Mais malheureusement, cette leçon de Saint-Pierre n'a pas été tirée. Aujourd'hui, plus que jamais, ce carnaval aujourd'hui est encore, je dirais, plus blasphématoire que ne l'était. On n'a qu'à voir chaque année, d'ailleurs, le compte rendu qui donne les journaux de locaux sur cela pour se rendre compte. Encore des personnes, surtout le fameux mercredi des cendres, le dernier jour du carnaval, eh bien, où les gens font ces parodies, voyez-vous, d'enterrements. Des gens encore qui s'habillent en prêtre, encore qui parodient des enterrements. J'ai vu un jour une photo d'un journaliste, pourtant très connu, ce qui faisait encore plus scandaleux, dans l'île, à la Martinique, qui s'était habillé en prêtre, le mercredi des cendres, qui suivait un cercueil que d'autres, des idiots, portaient sous leurs épaules, eh bien, et qui avait pour un guise, voyez-vous, de missel, un bottin du téléphone, donc un annuaire du téléphone, et pour Robénite, eh bien, du rhum. Il s'amusait à cela, à faire l'idiot. Alors, c'est passé, bien sûr, dans tous les médias donc locaux. Les gens ont dû trouver, un peu comme ces gens absolument irréfléchis en 1902, ont dû trouver, voyez-vous, que tout cela, que de Dieu, on peut se moquer. Eh bien, de Dieu, on ne se moque pas. Un deuxième aspect aussi, je reviendrai avec quelques petites citations assez courtes. Donc, un autre aspect, voyez-vous, que j'aimerais aussi vous faire méditer, parce que c'est bien sûr ce que les gens disent souvent, et c'est l'objection quand on dit aux gens, mais Saint-Pierre a été détruite par la colère divine, par la justice divine. Les gens disent, mais alors, et tout c'est bon. Eh bien, parfois aussi, les bons, malheureusement aussi, doivent payer. Voici donc ce qu'ils disent, je vais vous citer deux textes tout simplement pour terminer. donc de saint Augustin. Dans ses commentaires très connus et absolument très judicieux, saint Augustin est vraiment génial. D'abord sous l'Epsom 148, il dit ceci. Voyez-vous, ça s'applique vraiment à la lettre à notre histoire. Je l'ai découvert par hasard ce matin. Quelque chose donc qui arrive ici-bas contre votre volonté, sachez qu'elle n'arrive que par la volonté de Dieu, par sa providence, par son ordre, sur un seul signe de sa majesté et d'après les lois qu'il a établies. Si nous ne comprenons pas pourquoi telle ou telle chose se fait, rendons cet hommage à sa providence, de penser qu'elle ne se fait pas sans raison. Et alors nous nous garderons de blasphémer. Si en effet nous nous mettons à discuter sur la conduite de Dieu, à dire pourquoi ceci, pourquoi cela, ou bien il n'aurait pas dû agir de cette manière, il a eu tort d'agir ainsi, que deviendront les louanges que nous devons à Dieu? Vous ne saurez plus chanter Alléluia, gloire à Dieu, examiner toutes les créatures dans le but de plaire à Dieu et louer celui qui les a faites. En effet, si vous entrez par hasard dans l'atelier d'un forgeron, vous n'osez blâmer les soufflets, les enclumes, les marteaux dont il se sert. Supposez au contraire un ignorant qui n'en connaît pas l'usage, il critiquera tout. Mais s'il n'a pas l'habileté de cet artisan, et que du moins il a la prudence qui convient à un homme, que se dira-t-il? Ce n'est pas sans raison que l'on a placé ici des soufflets. L'ouvrier sait pourquoi ils s'y ont, bien qu'il ne les sache pas. Il n'ose pas critiquer un forgeron, et il osera blâmer Dieu dans la création du monde. Le prophète, donc en parlant bien sûr du prophète David, ajoute que les montagnes et toutes les collines, que les arbres fruitiers, les cèdres, que les animaux et les bêtes, les reptiles et les oiseaux qui ont des ailes louent tout le Seigneur. Puis il adresse aux hommes que le roi et le peuple, que les princes et les juges de la terre, que le jeune homme et les jeunes vierges, que les vieillards et les enfants glorifient tous le nom du Seigneur. Après avoir énuméré les créatures qui louent Dieu dans les ciels, il énumère les créatures qui le louent sous la terre. Et ensuite, à propos justement de cette condamnation, pourquoi Dieu punit à la fois aussi les bons et les méchants, voici ce qu'il dit donc dans la cité de Dieu, au livre 1er, chapitre 9. Raison pour laquelle les bons et les méchants sont également affligés. Mais dans ce désastre, qu'ont donc souffert les chrétiens qui, aux yeux de la foi, ne doivent tourner à leur profit? D'abord, considérant humblement toutes les iniquités qui ont porté la colère de Dieu à verser sur le monde et ses immenses calamités, tout éloigné qu'ils sont, et pas de bons, de ces crimes et de ces désordres impies, cependant, ils ne se croient pas tellement exempts de fautes qui ne peut mériter ce mot temporel pour leur propre péché. En effet, outre qu'il n'y a personne dont la vie, si irrépréhensible que soit, ne cède en certaines occasions à la concupiscence charnelle, et qui, tout en s'abstenant de crimes énormes, de forfaits abominables et impies, ne se rendent néanmoins coupables de quelques péchés ou rares, ou d'autant plus fréquents qu'ils sont plus légers. Trouverait-on facilement quelqu'un qui traite comme ils doivent être traités ces autres, dont l'orgueil effrayant, la luxure, l'avarice et les iniquités exécrables et impies forcent Dieu de broyer la terre selon la menace qu'il en a faite pour son prophète? Et ensuite ceci, qui donc vit avec ces sortes de gens comme il faudrait y vivre, donc les bons au milieu des méchants? Trop souvent par une dissimulation coupable, voilà à propos des bons, c'est pourquoi je vous disais, n'est-ce pas, les bons qui ne sont pas assez bons. Donc je répète, trop souvent par une dissimulation coupable, on évite de les éclairer, de les avertir, et même de les reprendre et de les corriger. On fuit la peine, on n'ose pas leur déplaire, on craint de les irriter, donc les méchants, de peur qu'ils ne deviennent un obstacle et ne nous nuisent dans des biens temporels que notre cupidité désire acquérir et dont notre lâcheté redoute la perte. Aussi, quoique la vie des méchants répugne au bon, et que cette répugnance les préserve de la damnation, que les impies doivent encourir après cette vie, cependant, comme ils se montrent trop indulgents à l'égard de ces iniquités condamnables, voilà l'exemple de Saint-Pierre, les bons se montrent trop indulgents à l'égard de ces iniquités condamnables, par crainte de perdre des biens qui sont pour eux-mêmes une source de fautes légères et véniels, il est vrai. C'est justice qu'ils sont punis avec les méchants dans le temps, bien qu'ils soient épargnés dans l'éternité. C'est justice que partageant avec eux les châtiments envoyés par la Providence, ils éprouvent l'amertume de cette vie qui, en les charmant par sa douceur, les a empêchés de faire sentir aux impies l'amertume salutaire des reproches. Et ensuite, pour terminer, il dit, si pourtant on omet de reprendre, de corriger ceux qui font le mal, donc les méchants, soit qu'on attende un moment plus favorable, soit qu'on craigne qu'ils ne deviennent plus mauvais, ou bien encore de peur qu'ils ne détournent les faibles de la piété et de la vertu. Donc c'est charité, évidemment, quand on veut éviter un mal majeur. Mais ce qui est répréhensible, dans ce qui est condamnable, ce que les hommes, qui pour une vie réglée montrent l'horreur qu'ils ont pour les crimes des méchants, alors qu'ils devraient blâmer et reprendre les fautes d'autrui, les tolèrent avec faiblesse. Ils ne veulent pas s'attirer d'inimitié, dans le respect humain, ni s'exposer à souffrir des dommages dans ces biens temporels dont ils peuvent jouir d'une manière légitime, mais auxquels ils sont trop attachés, pas pour des chrétiens qui ne sont dans ce monde qu'en passant et qui portent dans leur cœur, l'espoir de la patrie céleste. Donc, voyez-vous, si dramatique, si dur qu'il puisse nous paraître, n'est-ce pas, cette justice de Dieu, cette punition divine, où autant les bons et les méchants, bien sûr, sont punis, il a quelque part aussi, nous dit donc Saint Augustin, gardons-nous de critiquer le bon Dieu, gardons-nous de nous mettre à la place de Dieu. À mon avis, c'est un exemple qui doit nous amener à réfléchir. Parce qu'aujourd'hui, pas seulement du point de vue, voyez-vous, de la profanation d'un carnaval, ou la profanation d'une croix. Il a des profanations parfois, sous tout point de vue, dans l'ordre naturel, dans l'ordre surnaturel, où aujourd'hui nous assistons dans nos sociétés qui se disent chrétiennes, parfois même dans nos propres familles. Il ne s'agit pas d'envoyer tous les gens en enfer, il ne s'agit pas d'espérer dans la miséricorde de Dieu. Mais enfin, il faut appeler le mal par son nom. Et c'est à mon avis ce qui a manqué à Saint-Pierre. Les prêtres, malheureusement, par ce qui apparaît en tout cas dans l'histoire, n'ont pas fait leur devoir. L'évêque n'était pas là, malheureusement, eh bien, pour juger de cela, eh bien, ils ont laissé faire ces péchés publics. Et à péché public, j'insiste encore une fois à cela, il faut réparation publique. C'est Dieu qui l'exige, c'est la justice divine. Eh bien, nous devons nous aussi, voyez-vous, craindre cette justice divine, parce que, voyez-vous, ce ne sera pas de châtiments corporels dans ce monde, ce sera peut-être pas seulement la vie qui est raccourcie, parce que finalement c'est la vie éternelle que nous attendons finalement, et que c'est Dieu parfaitement libre de choisir le moment où il va nous enlever de ce monde pour nous amener dans l'éternité par la mort. Ça c'est l'affaire de Dieu, Dieu choisit pour nous. Prions plutôt, voyez-vous, pour que le bon Dieu nous choisisse préparés. Il a peut-être une consolation, je voudrais terminer par cette note un peu plus encourageante pour vous montrer bien sûr que la réaction de ces gens-là de Saint-Pierre en 1902 était quand même relativement, voyez-vous, en tout cas de la population plus chrétienne. On raconte bien sûr que, pas seulement la veille, donc le 7 mai 1902, mais aussi quelques jours auparavant, quand les gens qui ne pouvaient plus quitter la ville, parce qu'ils n'avaient pas le moyen d'aller trouver de secours ailleurs, eh bien, se sont rués vers les confessionnaux. Et beaucoup de gens, se souviennent, se sont confessés. Beaucoup de gens, voyez-vous, ont eu le bon réflexe, et le réflexe chrétien, parce que quelque part, il restait, eh bien, quelque part, chez les gens, ce bon réflexe du catholique qui sait que la justice de Dieu est là. On a vu, raconte les survivants, ceux qui ont quitté donc la ville avant la destruction, ils racontent qu'il a eu des conversions émouvantes. Alors, prions pour que ce qui a été une punition physique finalement, celle de la mort, eh bien, n'est pas été pour la plupart d'entre eux, eh bien, une punition éternelle. Que l'homme Dieu a eu pitié, bien sûr, y compris aussi, évidemment, de ces bons qui n'ont pas été assez bons à faire respecter et surtout à réparer les maux publics. C'est pour ça que j'aimerais bien sûr terminer. Nous allons prier pour ces âmes qui sont mortes dans cette catastrophe, en pensant nous-mêmes aussi à notre mort. Et en demandant au bon Dieu de nous donner, comme nous le demandons à chaque « Je vous salue Marie », eh bien, de nous assister, notre Seigneur, notre Dame, eh bien, à l'heure de notre mort. C'est pour ça que nous allons prier, eh bien, pour le repos de ces âmes qui sont mortes dans cette catastrophe.
votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, béni. Requiem aeternam donaeis Domine, et lux perpetua lucere, requiescant in pace. Et par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix, ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.